Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
Oh, la surprise au Vélodrome! L'ouverture du score du Canet Rocheville. La première occasion pour les pensionnaires de National 3. Et c'est Mike Corré, l'attaquant, qui vient fixer Steve Mandanda. C'est superbement lancé. Il n'y a pas visiblement de position de hors-jeu, même si les Marseillais réclament que le joueur c'est limite. Mais à ma vie court, il monte au dernier moment. Quelle occasion! Bien mené, ballon récupéré par le capitaine Anthony Calatayud, qui fait un match énorme au milieu de terrain. C'est lui le chef d'orchestre. Attends, coach, je raconte l'occasion avec Mendes à 30 mètres du but, qui fait un 1-2 magnifique pour tromper le milieu de terrain, percer dans l'axe et dans la profondeur. Mike Corré qui prend son temps, qui ajuste et qui met ce ballon entre les jambes de Steve Mandanda. Grosse explosion de joie dans le camp des 3000 supporters du Canet Rocheville. Et déjà la petite surprise qui se profile à l'horizon. En tout cas, Marseille est mené 1-0, 17 minutes de jeu.
Vous êtes sur RMC, les 32e de finale de Coupe de France, Intégral Foot spécial avec Roland Courbis. Roland, on connaît l'histoire tourmentée de l'OM avec la Coupe de France ces dernières années. Ça doit être compliqué dans la tête.
Celle-là, de blague, j'y crois pas une seconde.
Et le Canet Rocheville, National 3. On va suivre quand même, il y a un corner pour l'OM, Flo.
Exactement, Steve Mandanda qui plonge et qui se prend un but par un piscinier. C'est original, effectivement. C'est son métier. Mandanda qui est spectateur sur cette parade ce coup-ci de son homologue du soir, François Squarcioni. La reprise de la tête de Milik, le cafouillage une nouvelle fois. Marseille se procure des occasions sur corner. Milik qui voit ce ballon repoussé sur sa ligne par le défenseur du Canet. Non, elle n'est pas. Elle n'a pas franchi la ligne. Un petit miracle quand même sur la ligne du Canet Rocheville. Et le nouveau corner pour les Marseillais, tiré par Payet au premier poteau. Dégagement de la tête des Canetans et le capitaine une nouvelle fois qui ne s'embarrasse pas et qui dégage les siens. 20 minutes, un petit peu moins, 19 minutes au Vélodrome. 1-0 pour le Canet Rocheville ici à Marseille.
La sensation pour le moment, c'est que le début du match, mais l'OM est donc mené 32e de finale de Coupe de France. C'est l'un des 5 matchs que l'on vit ensemble avec coach Courbis sur RMC. On va faire un tour de nos stades où donc l'OM est mené. Lyon-La-Duchère reçoit Saint-Etienne. Edouard G.
19 minutes de jeu, 0-0. Les grosses occasions stéphanoises d'entrée, 5e et 9e notamment avec Wabi Kazri. Mais à l'instant, une action un petit peu confuse dans la surface de réparation de Stéphane Basic et Achille Mok qui se retrouve à terre. Toute la tribune et même le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est là, a demandé le pénalty. Mais non, finalement, il n'y a rien et on en reste à 0-0. 19 minutes de jeu.
Le Red Star Club de National reçoit Monaco. Timothée Mémon à Saint-Ouen.
0-0 après 18 minutes de jeu et pour le moment les Monégas n'arrivent pas à se montrer véritablement dangereux.
Il n'y a pas de pénalty, j'espère.
Pénalty pour sur quel match, sur l'OM, coach Flo?
Non, coup franc. Tu te doutes bien que s'il y a pénalty alors que Marseille est déjà mené 1-0, je crie dans le poste et je vous l'annonce. Mais il y a un coup franc très intéressant.
C'est 4 cm à la main.
On peut le suivre si vous voulez. Messieurs, 1-0 pour le Canet Rocheville.
Il est tiré dans combien de temps?
Okay. On va dans 15 secondes.
Le temps, le score, Poitiers Lens, Aurélien Tiercin.
0-0, c'est chaud pour les Lensois. 20 minutes et 17 secondes de jeu.
Et rapidement, Romain Asselin, Bergerac Metz, s'il te plaît, le temps, le score.
0-0, le centre complètement raté des Messins. 0-0 à la 21e.
Le coup franc au Vélodrome pour le Canet Rocheville, Florent Germain.
Effectivement, qui sera tiré peut-être par le buteur de l'après-midi pour le moment. Et il est Canetan, il est de cette équipe de National 3 du Canet Rocheville. Mike Corré qui a ouvert le score. Et là, ils sont deux autour du ballon. Il y a Hichem Ferreri qui a une histoire aussi particulière parce qu'il est sorti sur civière direction les urgences lors du dernier tour. C'est tiré par Hichem Ferreri, repoussé par le mur, peut-être contré une nouvelle fois. Il s'est blessé, il est au sol, le jeune attaquant de cette équipe du Canet Rocheville. Et monsieur Hamel laisse le jeu se dérouler. En contre, on part du côté des Marseillais avec Amavi qui a décalé, Conrad qui a décalé, Amavi côté gauche.
On revient dans un instant, Florent Germain, Roland Courbis, mais direction Alta Badia, le ski, Alexis Pinturo, sa deuxième manche du slalom géant, Arnaud Souk, Sébastien Amier.
Ouais, on est quasiment sur le bas pour Alexis Pinturo qui est toujours en avance au deuxième intermédiaire, 26 centièmes d'avance sur le leader actuel Patrick Feuerstein. Il va en terminer dans quelques instants. Alexis Pinturo, les toutes dernières portes, 49 centièmes désormais de retard pour le skieur de Courchevel. Mais c'est le tarif pour tout le monde parce que la visibilité a énormément baissé depuis le départ de cette deuxième manche. Et Alexis Pinturo, eh bien aujourd'hui, il ne gagnera pas, il ne se succédera pas à lui-même. Il va même faire un très mauvais résultat puisque c'est le 8e temps provisoire. Sachant qu'il reste encore 8 skieurs à passer.
Bastoun, Sébastien Amier, notre membre de la Dream Team, c'est une très mauvaise course de Alexis Pinturo là.
Eh oui, effectivement, là, il s'était mis dans le dur déjà lors du premier tracé. Et puis au milieu de cette deuxième manche, il a mis la main dans la porte qui l'ont freiné beaucoup. Et malheureusement, voilà, ça coûte cher. On sait que les autres ont poussé vraiment leur ski pour aller chercher ce gros résultat. Et lui finit très mal et il finit même loin. Loin, c'est tout est relatif, hein, oui. Puisqu'il est qu'à 53 centièmes. Donc voilà, les centièmes sont chers. Malheureusement, pas en sa faveur aujourd'hui.
Bon, tout n'est pas perdu à Altabadia pour nos Français, puisque je vous rappelle que Mathieu Febvre a réalisé le meilleur temps de la première manche et il sera donc le dernier à s'élancer dans 8 dossards et ce sera à vivre en direct sur RMC avec Sébastien Amier et Arnaud Souk à tout à l'heure. Messieurs, on tentera quand même d'aller la chercher cette victoire à Altabadia, 14h07, l'intégrale foot Coupe de France. Je vous rappelle qu'on suivra également du biathlon avec la Mastart du Grand Bornand, Mastart masculine à partir de 14h45. Julia Simon a terminé deuxième chez les femmes en début d'après-midi et puis puisqu'on est sur les rendez-vous de votre dimanche, 17h30, la finale du mondial féminin de handball France-Norvège à vivre en intégralité sur RMC. Roland, l'OM mené par ce club de National 3 qui est le Canet Rocheville, c'est quand même une énorme sensation là.
Bah oui, donc ça c'est le moins qu'on puisse dire. Puis bon, en plus de ça, je vois pas beaucoup d'occasions pour l'OM depuis ces 23 minutes.
Laurent que Germain, des corners, coach. Ouais. Que des corners, 1-0 pour le Canet Rocheville. Effectivement, une superbe action d'ailleurs, hein, avec, je le disais, Jordan Mendes qui est le joueur assez rapide, très fin de cette équipe du Canet Rocheville, qui a une petite histoire assez atypique aussi. Lui qui est brancardier à l'hôpital de Nice et qui est en concurrence avec qui devant ? Avec son frère. Alors là, ça l'arrange parce que le frérot, il est suspendu. Jackson, le grand frère.
Le pauvre.
Il s'est pris un carton rouge lors du dernier match de championnat. Dernier défenseur. Et la règle, on m'a expliqué au club, de la double peine, puisqu'il y a eu pénalty aussi, a été appliquée. Alors évidemment, la règle qui normalement n'est plus, hein, c'est-à-dire normalement, il n'y a plus de double peine et de carton rouge quand la faute n'est pas trop violente. Donc, évidemment, ça a vexé énormément le Jackson Mendes, le grand frère, et son petit frère Jordan a été le déclencheur de cette occasion, vraiment dans l'axe, et qui a lancé en profondeur Mike Corré. Je crois qu'on prononce Corré, j'espère ne pas me tromper pour famille qui se plaindra sur...
J'ai vu un accent.
Moi aussi. Ouais. Tout va bien. Donc 24 minutes de jeu, et pour répondre à la question de coach, on ne voit que des corners, et surtout ce qu'on voit, c'est un Marseille qui fait tourner, qui joue à la baballe. C'est souvent la consigne en Ligue 1, mais bon, face à une équipe de National 3, normalement il faut peut-être appuyer un petit peu plus sur l'accélérateur. 1-0 pour le Canet Rocheville, messieurs, au Vélodrome.
Bon, en tout cas le Jackson, le frérot pourra peut-être jouer les 16e de finale, il doit être content en ce moment. À tout à l'heure Florent, on va faire notre tour des stades, hein. 5 matchs de ces 32e de finale de Coupe de France. On va aller à l'endroit où c'est peut-être le plus chaud pour un autre club de Ligue 1, c'est Lens. Aurélien Tiercin, est-ce que les défenseurs lensois reprennent leurs esprits sur la pelouse de Poitiers, club de National 3?
Moyennement Thibaut, il y a quelques dégagements très approximatifs. Alors la qualité de la pelouse est aussi à remettre en cause, mais voilà, c'est la Coupe de France, c'est le mois de décembre. Pour les défenseurs poitevin, c'est la même chose, et pour l'instant on voit une belle équipe de Poitiers, notamment Jordan Cuvier et Christopher Fourmi devant, qui font du mal aux défenseurs de Poitiers. Encore une fois, la Dylan Saolona qui tout à l'heure a fait lever le public avec un petit pont sur Massadio Aïdara. Là ils s'en sortent, les Lensois, ils essayent de s'approcher des cages de Paul Cattier. On a vu d'ailleurs une mésentente entre le gardien Poitevin et un défenseur de son équipe offrir une petite opportunité aux Lensois, mais ils sont vraiment totalement à l'envers pour l'instant, les 100 et or, après 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Et d'ailleurs Paul Cattier, lui aussi, qui a une jolie histoire avec la Coupe de France, il a 36 ans, mais il a déjà éliminé l'OM. Ça rappelle aussi des mauvais souvenirs aux supporters marseillais. C'était avec Grenoble en 2015, après un match nul 3-3 au Stade des Alpes, et il avait réussi une superbe séance de tir au but.
Ouais.
Exactement, il a même stopper un tir au but de Florian Thauvin à l'époque.
On va faire un un tour des stades rapide parce qu'après on a le ski et peut-être une victoire française à vivre avec Mathieu Fèvre. Comment ça se passe pour la première de Pascal Duprat avec Saint-Etienne face à Lyon, la Duchère, Edouard Vray?
Eh ben toujours pas de but, 26 minutes de jeu, c'était emballant au départ et pour l'instant ben, on est dans un ronronnement. Peut-être Arnaud Nordin dans la surface de réparation, passement de jambes dans finalement le retour du défenseur. On en reste à 0-0 pour le moment, mais les débats s'équilibrent.
Autre club de Ligue 1 engagé, Monaco sur la pelouse d'un national, le Red Star, Timothée Mémon.
Et pour l'instant 0-0, même si on a vu une très très bonne occasion en faveur de l'équipe de Saint-Ouen pour le Red Star avec une succession de contre favorables, notamment emmené par un très bon Moussa Gueye depuis quelques instants. Il a fallu que Radoslav Majeki s'emploie, le portier de Monaco, pour sauver ce ballon. Un bon coup franc là pour les joueurs du Red Star. C'est frappé au second poteau, ça va revenir en traite surface de réparation. La frappe, ce sera tranquillement captée par Majeki, mais la meilleure occasion dans cette rencontre, elle est pour le Red Star. 0-0 après 26 minutes de jeu.
À tout à l'heure, Timothée, on conclut notre tour des stades à Bergerac face à Metz. Le temps, le score, Romain Asselin.
Toujours 0-0 à la 28e. Je vous disais qu'on était dans un stade de rugby. Si on jouait au rugby, il y aurait 6-0 pour Metz. Vous voyez un peu l'image. Il y a eu deux tentatives qui sont passées très 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 au-dessus de la cage de Pierre Laborde.
Merci Romain, à tout à l'heure.
Oh,
dans
la
un
grosse
instant.
Parade, ouais. L'énorme parade côté Avognon, le gardien de la formation du Red Star avec cette reprise à bout portant de Kevin Volland. Il a fallu qu'il s'emploie. Et bien voilà, on avait une très grosse occasion pour le Red Star. On voit une énorme pour l'AS Monaco avec ce centre venu de la gauche et la reprise de Kevin Volland. On en reste à 0-0 entre le Red Star et Monaco.
Et l'OM est toujours mené 1-0 face au Canet Rocheville, club de National 3. La suite de tous ces matchs est dans un instant sur RMC avec Roland Courbis dans l'intégral Foot Coupe de France. Et puis on ira à Altabadia pour le ski. La deuxième manche de Mathieu Fèvre sur le slalom géant. Il a signé le meilleur temps de la première manche. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
Ouais, on va y aller au ski dans un instant pour la deuxième manche de Mathieu Fèvre sur le slalom géant d'Altabadia. Il est promis à l'issue de la première manche. Alexis Pinturo, c'est raté. D'ici là, avec Roland Courbis, on suit la Coupe de France, les 32e de finale de Coupe de France. Et c'est toujours la stupeur au Vélodrome où l'OM Florent Germain est mené par un club de National 3.
Affirmatif, le cinquième de National 3, poule méditerranée, le Canet Rocheville qui mène un but à zéro, le buteur Mike Corré juste après le quart d'heure de jeu, une très belle action en plus des canetans et une équipe du Canet Rocheville qui défend très bien, très resserré, et des Marseillais qui se créent, c'est vrai, pas mal de coups de pied arrêtés, notamment des corners, mais qui peinent à se montrer dangereux, même si on voit surtout Aminari de côté droit essayer de déborder. Il a tout à l'heure réclamé une faute et un pénalty, mais Monsieur Hamel n'a pas bronché et a même sifflé coup franc ou est revenu plutôt à une position de hors-jeu qui n'était pas évidente, je crois, de la part de Paul Lirola. La demi-heure de jeu et déjà un petit peu de stress dans les tribunes, 25 000 personnes quasiment, très belle affluence et 1-0 pour Canet Rocheville.
Roland,
heureusement que le match se joue au Vélodrome et qu'il reste quand même encore une heure, hein, pratiquement, parce que ce genre de match, tu perds 1-0, tu sais, dans ces traquenards comme il peut y avoir dans certains stades, là c'est quand même le stade au Vélodrome. Je m'imagine pas un seul instant qu'on puisse terminer 0-1 pour Rocheville.
Et pourtant, pour l'instant, l'OM est mené. C'est d'ailleurs le seul but pour l'instant de ce début d'après-midi sur nos 5 matchs avec à chaque fois un club de Ligue 1 engagé. Les Verts de Saint-Etienne sont à Lyon, pas face à l'OL, face à la Duchère, ce quartier lyonnais, Edouard G.
Oui, avec vue sur le Groupama Stadium, mais il faut vraiment avoir les anti-brouillards parce que le brouillard est vraiment présent de plus en plus ici, même si bien évidemment au niveau de la vue, et ça ne change, ça ne propose aucun souci. 31 minutes de jeu, 0-0, les Verts qui avaient mis beaucoup d'allant dans l'entame.
La parade pour Bergerac. Oh, quelle occasion pour le FC Metz avec Ibrahim Agnan lancé en profondeur qui se retrouve en duel avec Pierre Laborde, le gardien de Bergerac.
L'ouverture du score d'Arnaud Nordin, il a pris le ballon au 16m50, il a ajusté du pied gauche et c'est au ras du poteau sur un ballon perdu au milieu de terrain sur une relance de la Duchère. Arnaud Nordin qui vient ouvrir donc le score. 31 minutes de jeu sur un éclair au milieu de la grisaille qui tour ce stade Balmont. Et bien voilà, les Verts qui, je vous le disais, avaient eu un petit peu d'allant au début de match, mais qui s'endormaient un petit peu. Et bien là, ils ont récupéré un bon ballon. Et Arnaud Nordin, alors qu'il y avait Wabi Kazri qui se proposait pour éventuellement un ballon en profondeur, eh bien il a écarté un petit peu la défense, le Tunisien, avec cet appel, et du coup Arnaud Nordin a pu ajuster du pied gauche et ça va au ras du poteau de Pierre Pop, et ça fait 1-0 donc pour Saint-Etienne à la 32e minute.
Roland, pas mal de marquer relativement tôt dans cette rencontre.
Ah ben oui, là ça enlève les inquiétudes. On a le bon exemple du côté du Stade Vélodrome.
Oui.
Ouvrir le score, c'est sûr que ça libère beaucoup de choses.
Et donc Saint-Etienne mène 1-0 face à Lyon, la Duchère, National 2. On va conclure à Bergerac, où Bergerac, club de National 2, également reçoit Metz. Romain Asselin.
Ouais, toujours 0-0, les Messins qui ont la possession. Hein. Mais alors, ça manque d'automatisme. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, coach, mais c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de turnover, beaucoup de cadres qui sont absents, des jeunes qui montrent le bout de leur nez. Mais pour l'instant, on a du mal à se trouver. Heureusement, il y a Pape Matarsar au milieu, assez souverain hein, depuis le début de cette rencontre, qui distribue quelques caviars. Bah alors, franchement, c'est compliqué pour le FC Metz, alors que Bergerac, de son côté, essaie de procéder en contre. Pour l'instant, très peu d'occasions, vraiment très chaudes. 0-0. Après 34 minutes.
Metz en difficulté, même s'il n'est pas mené, on peut faire pire cet après-midi. Comment ça se passe pour les Lensois face à un club de National 3?
Mais ça fait 1-0 pour l'AS Monaco avec ce petit festival dans la surface de réparation de Wissam Ben Yedder qui récupère le ballon à l'entrée de la surface, qui est face à un défenseur de défenseur et qui ajuste le portier William Avognon. 1-0 donc, but de Wissam Ben Yedder. Il faut dire que cette équipe du Restart est particulièrement joueuse, elle laisse des espaces, ça s'est vu une fois, deux fois, trois fois avec des occasions en faveur de l'AS Monaco. Ils ont préféré continuer à jouer leur jeu, les joueurs du Restart. Ils ne se sont pas départis de leur volonté de jouer, mais ils laissent des espaces et c'est Wissam Ben Yedder qui en profite. 1-0 pour l'AS Monaco sur la pelouse de Bauer.
C'est Timothée Mémon, coach l'AS Monaco, qui a mis une grosse équipe quand même. Ça a fait légèrement tourner, ouais, mais
absolument,
ouais,
et là, donc, c'est pareil que, ouais, ce que l'on vient de dire pour Saint-Etienne, ouvrir le score au Restart, c'est sûr que ça aide beaucoup en ce qui concerne la confiance, et ça soulage aussi en ce qui concerne l'inquiétude de cette traditionnelle surprise de, oui, Mademoiselle Coupe de France.
Et ça va mieux pour Monaco donc, qui mène 1-0 sur la pelouse du Red Star. Ça va mieux pour Saint-Etienne qui mène 1-0 sur la pelouse de Lyon. La Duchère, toujours 0-0 pour Metz à Bergerac. Comment ça se passe pour Lens à Poitiers donc, Aurélien Tiercin?
Et ça va mieux pour le Stade Poitevin surtout. On est bien plus présent autour de la surface de Wilker Farinies. 0-0 après 34 minutes et 40 secondes de jeu. Les attaquants lensois ne se comprennent plus après un super début de saison. Ça va plus du côté de l'équipe de Franck Hesse, notamment la défense. Tout à l'heure, Dylan Saolona sur le côté droit a obtenu un corner tiré ensuite par Ivan Kimbundu, et la grande taille, le 1m90 de Christopher Formy et la grande taille aussi de Jordan Cuvier fait du mal pour l'instant. Encore une fois, Kevin Danso là, l'Autrichien, qui arrive à trouver Cheikh Doucouré en écart pour Jonathan Klaus. Les Lensois entre temps se sont quand même créé une belle occasion, une remise de Klaus pour Sotoka à la parade de Paul Cattier, le gardien poitevin. Mais Lens est en difficulté. 35 minutes et 20 secondes, 0-0.
14h20, l'intégrale Foot Coupe de France, les 32e de finale avec Roland Courbis. On va refaire une pause tout de suite, comme ça dans un instant on peut terminer nos mi-temps et aller au ski pour assister, on l'espère, à la victoire de Mathieu Febvre à Altabadia. Marseille toujours mené 1-0 à domicile par le Canet Rocheville. National 3, Saint-Etienne mène 1-0 face à Lyon, la Duchère. Monaco mène 1-0 sur la pelouse du Red Star. 0-0 entre Bergerac et Metz et 0-0 entre Poitiers et Lens. Vous êtes sur RMC, ne changez rien. On revient dans un court instant.
RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
Et les fêtes seront peut-être bonnes pour les Lensois. Vous êtes sur RMC. Roland Courbis est là, les 32e de finale de Coupe de France. Dans un instant, le ski avec la descente de Mathieu Febvre qui va tenter d'aller chercher la victoire. Mais un but pour les Lensois. Aurélien Tiercin à Poitiers.
Ouais, catastrophe pour le Stade Poitevin. D'abord ce cafouillage énorme dans la surface de réparation, la frappe d'Aïdara repoussée par Cattier derrière les défenseurs ne s'en sort pas. Ignatius Ganago permet au Racing de mener 1-0, et sur la remise en jeu, César Neto prend un carton rouge après un gros tacle sur Corentin Jean. Donc Poitiers à 10 contre 11 et mené 1-0, 38 minutes de jeu.
Pénalty pour l'OM, l'OM qui reçoit le Canet Rocheville, Florent Germain.
Oui, pénalty pour l'Olympique de Marseille, effectivement, une faute sur Conrad de la Fuente et un carton rouge en plus. Ce n'est pas une double peine qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un deuxième carton jaune.
Tout simplement terminé.
Pour Ieb Laouel, le pauvre, un ancien du club, lui qui est passé du rêve au cauchemar parce que son équipe menait un but à zéro.
Il le tire dans combien de temps, Flo?
Il le tire dans une minute, je pense.
Ok, alors on va aller au ski. Tu nous rappelles s'il le tire. On va aller voir Mathieu Febvre qui vient de s'élancer. C'est la deuxième manche du slalom géant d'Altabadia. Sur place, Arnaud Souk avec Sébastien Mie. Arnaud.
Et au premier intermédiaire, déjà du retard pour Mathieu Febvre sur le leader provisoire et peut-être celui qui va s'imposer aujourd'hui, le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui pour l'instant devance Marco Odermatt et Manuel Feller. On va voir ce que cela donne au deuxième intermédiaire dans quelques instants pour Mathieu Febvre, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal, les skieurs qui se sont élancés plus tard. 60 centièmes de retard désormais. L'objectif, ça va être de chercher le podium pour Mathieu Febvre, qui avait largement dominé la première manche ce matin, mais qui là, eh bien, se laisse un petit peu malmené par cette grande rissa, piste extrêmement exigeante. Oh, là, il a fait un gros travers, là, c'est compliqué pour Mathieu Febvre. Il va falloir se remettre dans le sens de la pente. On va voir ce que ça donne au troisième intermédiaire pour le skieur d'Isola 2000. 1:21 de retard. Il n'y aura même pas de podium, je pense, pour Mathieu Febvre, qui va arriver dans quelques instants ici dans l'air d'arrivée d'Altabadia. Sale journée pour les Français ici à Altabadia, puisque donc Alexis Pinturo va terminer largement au-delà de la 10e place. Et donc Mathieu Febvre, on termine avec le 16e temps. Waouh, ça c'est incroyable ce qui s'est passé là pour Mathieu Febvre.
Merci, le pénalty pour l'OM.
Le contre-pied parfait d'Arkadiusz Milik qui égalise dans ce match entre l'OM et le Canet Rocheville. C'est sûrement le tournant de la rencontre. D'abord le pénalty qui permet au Polonais Arkadiusz Milik de tromper François Squarcioni, lui qui est supporter de l'OM et qui la voulait tout faire pour arrêter un pénalty du club olympien. Le but de Milik, effectivement, l'égalisation, et surtout, on le rappelle, sur cette faute de Yeb Lawel, le défenseur du Canet Rocheville, le deuxième carton jaune. Et donc désormais les Canetans qui sont à 10 contre 11 face à l'OM, soulagé un partout.
L'expulsion, je la trouve sévère, parce que le tac est à la limite, il peut y avoir
plus. Il touche pas le ballon, hein.
Limite.
Alors on va revenir
sur la deuxième image. Il le touche. J'étais surpris
les fleurs,
d'ailleurs.
Peut-être.
On revient très vite au Vélodrome. Roland et Flo, un partout. L'OM de retour face au Canet Rocheville. On va conclure à Altabadia. Arnaud Souk sur place avec Sébastien Amier, notre membre de la Dream Team. On avait beaucoup d'espoir, mais Sébastien, nos Français se sont complètement ratés en deuxième manche. Comment l'expliquer ce loupé général là?
Ouais, grosse douche froide. Et effectivement, bah, l'expliquer, c'est que malgré le résultat de la première manche, il faut résister à cette fameuse pression. Et puis sur cette piste d'Altabadia qui est très exigeante, hein, où la visibilité est très sombre, il faut réussir à skier juste. Et nos deux skieurs ont skié un peu à contre-temps. Ça tapait beaucoup plus que les autres. Et puis c'est pas catastrophique en temps. Hein, c'est une seconde deux, mais pas assez pour aller chatouiller chercher ce podium. Et quand on sait que voilà, Odermatt est encore solide à deuxième place, Kristoffersen qui renoue avec la victoire, c'est des courses comme ça qui sont dures. Donc maintenant il faudra se remobiliser pour demain et puis essayer de remettre les pendules à l'heure pour vraiment faire deux manches pleines.
On va récapituler les résultats généraux et de nos Français sur cette deuxième manche. Arnaud, il est parti. Bon.
Salut 15e, Arnaud. 15e et 16e. 15e, Alexis Pinturo et Mathieu Febvre qui finissent 16e, malheureusement. Et Thibaut Favreau, 23e. On avait trois Français. Voilà, pas une grosse réussite, mais demain est un autre jour, comme on dit souvent. C'est le ski aussi. Ouais. Voilà, rien n'est acquis et il faudra, dans ces conditions-là, trouver le petit réglage qu'il faut aussi avec le matériel, l'engagement pour aller chercher le devant.
Merci beaucoup, Bastoun. Et grosse page ski ce soir dans le RMC Sport Show avec toi Sébastien Amier, avec Arnaud Souk, avec Morgane Maury qui est également sur place à Val d'Isère, parce que les JO approchent et on va faire un état des lieux là en cette fin d'année du ski français. Bon après-midi les gars, 14h28,
à tout à l'heure.
L'intégrale Foot Coupe de France continue sur RMC avec Roland Courbis, avec nos 5 matchs en direct. On va faire un tour des stades là. On va faire un point de situation, le temps, le score. On va commencer par La Duchère, Lyon, La Duchère, Saint-Etienne, Edouard V.
Et pour l'instant, Arnaud Nordin permet aux Verts de se sortir du piège ici à La Duchère. Ce but de la 38e minute, 1-0. Donc il reste 120 secondes dans cette première période. À noter que Pascal Duprat a déjà écopé au bout de 38 minutes d'un carton jaune.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Oh, il a un peu pesté parce qu'il imaginait qu'il y avait un pénalty sur Jean-Philippe Trasso. Ouais.
Pascal Duprat est une grande gueule, on le rappelle. Red Star Monaco, Timothée Mémon.
1-0 en faveur de l'AS Monaco face au Red Star. Et c'est Wissam Ben Yedder qui, pour le moment, donne l'avantage aux joueurs de la principauté. Mais le Red Star continue d'essayer.
Poitiers-Lens, Aurélien Tiercin.
Même score, même avantage pour l'équipe de Ligue 1 face à celle de N3. Lens mène 1-0 grâce à Ignatius Ganago à la 37e, mais c'est beaucoup plus dur certainement. Il reste une minute dans le temps réglementaire de la première période. Il y a eu un poteau pour Poitiers, malheureusement un carton rouge également, César Neto le meneur de jeu, et les Lensois qui profitent vraiment de leur avantage de physique dans cette partie, mais c'est très compliqué. Poitiers qui essaie de résister. 1-0 pour Lens, 44 minutes et 30 secondes de jeu.
Et rien n'est fait entre Bergerac et Metz, Romain Asselin.
Ouais, toujours 0-0, c'est plaisant hein, depuis un bon quart d'heure. On n'est pas passé loin d'un pénalty il y a deux minutes pour le FC Metz avec Amine Bassi qui s'est écroulé dans la surface. Mais l'arbitre n'a rien signalé. Touche à suivre pour les Bergeracois à l'entrée de la surface du FC Metz. Ça va être compliqué de s'en sortir. Ça va être récupéré par le capitaine Vincent Pajot. On va rentrer dans les arrêts de jeu dans une dizaine de secondes.
Retour au Vélodrome. L'OM reçoit le Canet Rocheville. L'OM a égalisé enfin. Florent Germain, comment ça se passe depuis l'égalisation?
Il reste 5 secondes avant la fin du temps réglementaire de cette première période. Donc toujours un partout. Marseille qui a le ballon. Et on sent quand même une équipe du Canet Rocheville, alors que c'est la mi-temps à l'instant même, qui est en train de laisser énormément d'énergie, surtout à 10 contre 11 désormais, depuis le pénalty et le deuxième carton jaune pour Ieb Lawel.
Un but partout.
Mike Corré sur l'ouverture du score à la 17e. Très beau but du Canet Rocheville. Égalisation donc sur pénalty d'Arkadiusz Milik.
On sait qu'il y a des surprises en football, mais là, à 10 contre 11, sincèrement, je vois plus de suspense.
Bon, on suivra ça en tout cas, parce que l'OM n'est pas encore, pas encore devant. Mi-temps à Bergerac, nous dit Romain Asselin. Bergerac, club de national de contre-Metz.
Et finalement, pas de temps additionnel. 0-0 après ces 45 premières minutes entre ces deux formations. Ah, c'est mieux. Hein. Il y a du mieux quand même depuis un gros quart d'heure. Ça promet une belle deuxième période. Mais pour l'instant, les deux équipes qui se sont davantage illustrées avec des shoots largement au-dessus des buts. Voilà, c'est pas du rugby, c'est du foot. On est dans un stade de rugby, mais ça reste la Coupe de France. 0-0 pour l'instant.
À tout à l'heure, Romain. C'est la mi-temps également entre Lyon, La Duchère, National 2 et Saint-Etienne. Édouard G.
Oui, merci Arnaud Nordin. C'est ce que doit dire Pascal Duprat qui accompagne ses joueurs en entrant dans le vestiaire. 1-0 ce but de la 38e minute qui libère un petit peu des Stéphanois qui avaient bien débuté le match avec notamment des actions de Crasso et de Casery, mais qui s'étaient un petit peu endormis. Et au moment où ils étaient endormis, peut-être laisser des espoirs aux Duchérois, eh bien ils ont marqué ce but d'Arnaud Nordin. Donc mi-temps 1-0 pour cette équipe de Saint-Etienne.
Merci Ben Yedder. C'est ce que doit dire Kovacs. Timothée Mémon, Red Star Monaco.
Absolument, parce que pour le moment les Monégasques sont devant grâce à ce but de Wissam Ben Yedder. Peut-être une nouvelle opportunité pour les joueurs de la Principauté. Ce ballon pour Volant d'entrée sur phase de réparation avec sur le côté droit la possibilité de mettre ce ballon pour le centre de Tchouaméni. Ça a passé très très loin derrière et on va probablement arriver à la fin de cette première période. 1-0 en faveur de Monaco. Monsieur Le Texier n'a pas l'air décidé à siffler tout de suite la fin de ce premier acte.
On est bien, Saint-Ouen. Est-ce que c'est la mi-temps à Poitiers, Poitiers-Lens, Aurélien Tiersain?
Non, pas encore. Il reste quelques secondes, moins d'une minute. Monsieur Miguel Gori vient de siffler justement la mi-temps sur un contact aérien entre Kevin Danso, le défenseur autrichien, qui était resté au sol. Poitiers réduit à 10 après l'expulsion de César Neto à la 38e. Juste avant, Ignatius Ganago avait marqué pour le Racing Club de Lens suite à un énorme cafouillage dans la surface de réparation Poitvin. Vraiment, il n'y a rien qui va pour Poitiers qui avait fait vraiment une superbe entame de match, une belle première demi-heure. Je peux fouiller un petit peu parce qu'il fait vraiment très très froid ici, c'est humide, il fait 1 degré, mais Lens s'en sort très bien donc et mène 1-0 à la pause.
Pas mal comme
excuse. C'est la mi-temps à Bauer.
C'est ton joker, Aurélien, tu auras droit à un joker cet après-midi, le froid c'est fait. À tout à l'heure, 14h32, oui, c'était le dernier, Timothée, Red Star Monaco, la mi-temps.
C'est la mi-temps à Bauer, effectivement, sur ce score d'1-0, un but de Wissam Ben Yedder à la 33e minute de jeu. À noter tout de même la belle prestation du Red Star qui, pour l'instant, eh bien, peut sortir de la pelouse à la mi-temps la tête haute. Ils ont produit du jeu et créé quelque chose. La mi-temps, ce sera évidemment avec les sets de DJ Fenn, qui est le DJ attitré du Red Star.
C'est autre chose que You Never Walk Alone. A tout à l'heure, Timothée, on retrouve tous nos commentateurs qui sont sur tous ces stades de Coupe de France dans un petit quart d'heure pour les deuxièmes périodes. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura du suspense partout. Un coach, c'est plié nulle part. Et même pour l'OM, effectivement.
Ouais, d'accord.
Mais bon. Et il faudra le marquer, ce deuxième but.
Bah, il serait à 11 contre 11, je te dirais pas le contraire. Mais là, je pense qu'ils vont carrément craquer. Ils ont fait beaucoup d'efforts, les joueurs de Rocheville. Et je pense qu'en deuxième période, ça sera très compliqué physiquement.
Dans une heure et demie à 16h, d'autres matchs de Coupe de France de ces 32e de finale à vivre sur RMC. Andrézieux-Montpellier, Lina-Montlhéry, Angers, Reims, Sainte-Anne contre Reims. Wascal face à Vannes, il y aura d'autres matchs à 18h20 et à 21h10. Le Paris Saint-Germain sera à Fény-Aulnois, enfin sera à Valenciennes contre Fény-Aulnois. Sans Messi, mais avec Sergio Ramos. Dans un instant sur RMC, on prendra la direction de l'Espagne. Ça sera le grand moment de cet après-midi à 17h30, la finale du championnat du monde féminin France-Norvège. On retrouvera sur place notre envoyé spécial les dernières infos avec Nicolas Paolo Orsi, la Coupe de France qui continue, et puis il y aura également du biathlon avec la Mastart masculine au Grand Bornand. C'est encore un magnifique dimanche qu'on vit ensemble sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot Coupe de France,
Thibaut Giangrande
avec Roland Courbis. Nous sommes dimanche le 19 décembre, 14h36. Merci d'être sur RMC ce week-end. Vous êtes peut-être en vacances, peut-être sur la route des vacances, il y a peut-être un peu de monde. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un week-end de Coupe de France que l'on vit ensemble. Les belles histoires, des surprises parfois, deux clubs de Ligue 1 sortis. Alors hier soir, Lorient, c'était contre une autre Ligue 1, Rennes, donc c'est normal, mais c'est Troyes qui a été éliminé au tir au but par Nancy. Et aujourd'hui, club de Ligue 1 en danger, on en suit 5 hein, en ce moment direct sur RMC. C'est la mi-temps entre l'Olympique de Marseille et le Canet Rocheville, un partout simplement à la mi-temps entre l'OM et ce club de National 3, mais le petit est réduit à 10 à la mi-temps. Saint-Etienne mène 1-0 contre Lyon-la-Duchère, club de National 2. Monaco mène 1-0 face à Red Star National, 0-0 entre Bergerac National 2 et Metz Ligue 1, et Lens, club de Ligue 1, mène 1-0 sur la pelouse de Poitiers, club de National 3. Dans une dizaine de minutes, les coups d'envoi des deuxièmes périodes. On ira également dans un instant en Espagne prendre la température qui monte à moins de 3 heures de la finale du championnat du monde que vous vivrez sur RMC en intégralité à partir de 17h30 avec Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team. Et puis autre rendez-vous dans moins de 10 minutes, le départ de la Mastart masculine, c'est du biathlon, ça se passe en France au Grand Bornand. Il y a de l'ambiance, il y a des Français en forme, et ça sera vif bien sûr en direct sur RMC. Mais à 14h37, place au défi hippique.
Mais qui est le chevalier blanc?
RMC, le défi hippique.
C'est Mathieu Zaccanini, notre chevalier blanc aujourd'hui. Salut Mathieu.
Ouais, j'espère. Salut Thibaut, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau défi hippique. Aujourd'hui, nous partons sur l'hipporome de Vincennes. Il s'agit d'une magnifique épreuve, puisqu'il s'agit du critérium des 3 ans. Une épreuve réservée aux meilleurs chevaux, aux meilleurs trotteurs âgés de 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric. Salut Frédéric.
Salut.
Alors Frédéric, dans cette compétition qui est quand même assez ouverte, il y a plusieurs possibilités. Qui est ton favori, toi?
Moi j'aime bien le 15 Italiano Vero, il a déjà battu bon nombre de ses adversaires, donc ça peut être pas mal.
C'est vrai qu'Italiano Vero c'est une bonne possibilité, c'est l'un des deux représentants de Philippe Allaire, hein. Il a également le fameux crack, le 12 Isoar Vedake, hein, qui compte 12 sorties pour 12 victoires, hein. C'est magnifique. Moi je vais quand même tenter autre chose, je vais tenter le numéro 14 Inoubliable, qui est une femelle de 3 ans qui m'a beaucoup marqué, hein, notamment dans la précédente sortie qui était le prix Annick Dreux. C'était une épreuve réservée à des femelles de 3 ans, elle avait bien fait, donc je pense que potentiellement le numéro 14 Inoubliable pourrait s'imposer dans cette compétition et devancer le numéro 15 Italiano Vero. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne chance Fred, et puis belle course, parce que c'est une course qui en vaut la chandelle.
Ouais, merci.
Merci les gars.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous êtes sur RMC, l'intégrale foot Coupe de France. Les 32e de finale. C'est la mi-temps dans quelques instants. Le retour de nos matchs, de coach Courbis. Tiens, un message, vos messages, hein, n'hésitez pas sur le hashtag RMC Live, sur le Direct Studio. Si sur la route des vacances, vous êtes sur le siège passager. Évidemment, il y a Aze qui nous dit, qui est un fidèle auditeur d'RMC, qui dit salut les beaux gosses. Donc déjà, on voit que Aze nous a pas vu, hein. C'est la radio. Moi, je note juste une chose, c'est que Oussem et Manu Amoros n'ont pas l'air d'apprécier la Coupe de France. Bon match et bon après-midi à tous. Alors non, c'est pas ça, Aze. Oussem est blessé. Voilà, il s'est blessé à l'épaule. Il sera de retour très vite. Et Manu déménage sa belle-mère. Voilà, on a tous des choses de temps en temps. 14h39. Rebonjour Nicolas Paolo Orsi.
Ça, c'est quand même une belle info, hein. Manu Amoros qui déménage sa belle-mère.
C'est important de donner les informations à nos fidèles auditeurs. Mais écoute, on a tous des histoires avec nos belles-mères. Manu, c'est aujourd'hui un déménagement. Toi, bonjour, Nico, tu es à Granollers, en Espagne, pas très loin de Barcelone, pour le championnat du monde de handball féminin. Tu le suis sur place pour RMC depuis le début. Tu suis nos Françaises invaincues, invincibles, on l'espère, parce que la finale, c'est à 17h30. Ce sera à vivre en intégralité sur RMC contre la Norvège. On rappelle, Nico, que les Bleus se sont fait peur, nous ont fait peur en demi-finale face au Danemark. Elles ont été longtemps menées avant de passer devant en toute fin de match. Tiens, déjà, est-ce que c'est peut-être pas une bonne nouvelle d'avoir eu un peu peur là en demi-finale? Parce que je sais pas ce que t'en penses. Moi, je les sentais confiantes, les Françaises, depuis le début de la compétition. Peut-être presque un peu trop confiantes sur leur notamment puissance défensive qui, effectivement, était là hein, depuis le début.
Non, alors je te trouve dur. Alors oui, on a la meilleure défense du monde. Les Françaises le disent et ne s'en cachent pas. Je pense pas qu'il y ait eu d'excès de confiance vraiment dans cette compétition. Il faut savoir que la France est tombée dans une poule. En général, dans un championnat du monde, tu as tout le temps des matchs faciles. Tu vas avoir des nations sud-américaines qui sont un peu plus faibles, des nations africaines qui sont faibles, voire asiatiques. Là, la France a pris que des grosses équipes. Depuis le premier match jusqu'aux demi-finales. Elles font 8 sur 8. Elles ont dominé à chaque fois leur rival. Et c'est vrai que le Danemark, c'était tout simplement la meilleure équipe depuis le début de la compétition, qui était invaincue comme les Bleus. Donc c'était un vrai défi qui était opposé aux Françaises. Il faut savoir que le Danemark n'a pas fait les Jeux Olympiques, donc il n'y a pas eu d'enchaînement physique difficile pour les Danoises. Bref, il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses autour de ce match-là. C'est un miracle de l'avoir gagné, parce que quand tu es mené de 4 buts à 20 minutes de la fin, dans des matchs où il y a très très peu de buts, franchement, le match, tout le monde le voyait perdu. Et ce qui fait la force de cette équipe-là, c'est qu'elle sait se transcender dans le Money Time. Elles ont changé de défense, elles ont réussi à piéger les Danoises, et la France sait gagner des médailles. Voilà. Donc non, je pense que ce match va peser beaucoup, parce que physiquement on est quand même fatigué. On a vu les joueuses hier, et c'est un match qui a pesé. Il y a eu énormément d'influx nerveux de dépenser, mais ces filles-là sont à 60 minutes de faire quelque chose d'historique, et elles vont se battre jusqu'au bout.
Surtout que l'équipe de France, on le sait, elles sont championnes olympiques, elles visent un incroyable doublé avec ce titre mondial 4 mois après les JO, et toutes les équipes qui affrontent les Françaises, ça a été le cas des Danoises il y a 2 jours, elles veulent les scalper, quoi. Ce sera pareil pour la Norvège cet après-midi. J'imagine que ça aussi, Olivier Crumbles, par exemple, on a conscience, Nicolas.
Complètement. T'as totalement raison, Olivier Crumbles, qui disait on est l'équipe à abattre. On est envie, on est jalousé, c'est normal parce qu'on gagne. Mais c'est vrai qu'on est l'équipe à abattre, et on l'a senti sur cette compétition, même au niveau des arbitres. On a senti que des fois, c'est vrai que la France, était un peu plus ciblée que les autres. Mais ce France-Norvège, c'est un classique du hand mondial. C'est les deux meilleures équipes depuis maintenant 10 ans, on va dire, avec les Françaises d'ailleurs qui gagnent plus de titres que les Norvégiennes, hein. 3 titres sur les 5 dernières années pour les Françaises, 2 pour les Norvégiennes. C'est un match particulier. Écoute Olivier Crumbles, le sélectionneur, quand on lui a parlé de cette affiche.
D'autant plus qu'on a fait une partie de la préparation des Jeux Olympiques ensemble, qu'on s'apprécie beaucoup, qu'on travaille ensemble. C'est une fédération amie avec qui on a des relations de confiance. C'est une finale particulière depuis longtemps, hein. Un match très excitant, de très haut niveau, avec peut-être une opposition de style. Mais on sait que c'est une équipe qui est très difficile à battre, et qu'on la bat que lorsque produit un handball de qualité exceptionnelle. De toute façon, si on joue comme on a joué hier, on perdra contre la Norvège.
Voilà, il est très lucide Olivier Crumbles. Ça va falloir faire un meilleur match dans le contenu que face au Danemark. Malgré tout, ce France-Norvège, on l'attendait en début de compétition, en finale. Écoute, Pauletta Foppa, la jeune pivot de 21 ans, c'est la meilleure buteuse des Bleus sur la compétition. On lui a demandé si c'était la finale rêvée, ce France-Norvège.
L'affiche rêvée, je pense que pour les fans de hand, je pense que oui. Pour le collectif, c'est un peu une revanche de l'Euro 2020. On a perdu de 2 buts. Donc ouais, on se connaît très bien. On s'est joué à 2 reprises cet été, avant les Jeux Olympiques. Donc je pense que ça va être une très 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 belle finale.
Tiens, pour terminer, Nicolas, justement, rapidement, c'est norvégien, tu le disais. Bon, c'est avec la France, c'est la meilleure équipe du monde. Leur parcours sur ce mondial, ça se passe comment pour elles?
Elles ont fait un match nul au tour principal, donc voilà, sinon elles ont tout gagné. Alors elles ont été dans une partie de tableau beaucoup plus facile. On va voir ce qui va peser, parce que la France a eu des matchs difficiles, la Norvège en a eu beaucoup moins. Par contre, les Norvégiennes sont plus fraîches physiquement que nos Bleus, qui ont dû cravacher lors des 8 premières rencontres. Donc on va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir pas beaucoup de buts, qu'il va falloir défendre très très fort, et franchement, une finale, ça joue au mental plus qu'à la compétence handballistique. Donc il va falloir que nos Bleus défendent mieux que face au Danemark. Si la France défend bien, on sera pas très très loin du titre.
Et on l'entend derrière toi, tu es déjà à la salle, Nicolas, c'est la petite finale, tiens, donne-nous le score, le
la
point,
petite finale entre le Danemark qu'on a battu et l'Espagne. 7-6 pour le Danemark qui mène d'un petit but après 14 minutes de jeu.
Merci Nico, on se retrouve tout au long de l'après-midi avec évidemment Point d'Orgue. 17h30, le coup d'envoi de ce France-Norvège, la finale du championnat du monde de handball féminin, avec Olivier Giraud sur RMC, notre membre de la Dream Team. Ce sera à vivre ici en intégralité. 14h45, l'intégrale Foot Coupe de France sur RMC avec Roland Courbis. Dans un instant, le coup d'envoi des deuxièmes périodes des premiers matchs de la journée, hein, 32e de finale. Il y a beaucoup de matchs, on va parier autour d'un match qui concerne une équipe de Ligue 1.
Winamax, les meilleurs cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
C'est Monaco qui est au Red Star. Monaco qui mène 1-0 à la pause grâce à Wissam Ben Yedder. On retrouve à nouveau Johan Guillet. Johan, que disent les cotes avant cette deuxième période?
Ça y est, tu l'as ton 1-0-5, Thibaut.
Ah, bah voilà.
1-0-5 la victoire de Monaco. 6-50 le match nul. 22 la victoire du Red Star. Écoutez, moi, je vous propose de miser sur un score exact. Je vous propose de miser sur le 2-1 pour Monaco qui est coté à 6-25.
Roland?
Oui, disons que bon, plus de 2,5 dans le match, donc je reste toujours avec ça depuis l'avant-match. Et ensuite, la possibilité qu'il y ait plus de 2,5 dans le match, mais sans le 2-1, eh ben, il peut y avoir aussi un 3-0. Donc 2-1, ok, 3-0, j'ai une deuxième ticket.
Le 2-1 donc à 6,25 et le 3-0 qui est coté à 5,20.
Yoann Guillet,
merci. Oui.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La deuxième mi-temps de Red Star Monaco, c'est dans un instant. La deuxième.
Bon, je pense.
Oui, Aurélien, ce sera également ça. C'est Aurélien Tiercin. Ça, c'est la voix d'Aurélien Tiercin qui est encore en train de trouver une excuse en régie. Oui, non, on ne sait pas ce qui se passe. Et il commente Poitiers-Lens. Lens qui mène 1-0 face à Poitiers. Ça va redémarrer également. On va faire les coups d'envoi puisque c'est reparti. C'est reparti entre l'Olympique de Marseille et le Canet Rocheville au Vélodrome. Florent Germain.
Affirmatif, un but partout entre l'Olympique de Marseille et le Canet Rocheville. On rappelle les buteurs, Mike Corré à la 17e, les pensionnaires de National 3 qui ouvrent le score donc à la stupeur générale ou presque, parce qu'il y a 3000 supporters du Canet Rocheville qui étaient en folie à ce moment-là. Et puis le match a peut-être basculé à la 40e avec ce pénalty sur Conrad De La Fuente, une faute et un deuxième carton jaune pour Ieb Laouel, le défenseur du Canet, le pénalty transformé par Arkadiusz Milik et donc ce score d'un but partout et Marseille qui est à 11 contre 10.
Et on le rappelle, sur ces 32e de finale de Coupe de France, pas de prolongation. Voilà, je dis ça comme ça. On est loin de. Voilà. Mais
non, ça change absolument.
Et pour aller au tir au but, il faut tenir 93, 14 ou 15 minutes. A tout à l'heure, Florent. C'est reparti également au stade Gaston Simonet de Bergerac. Bergerac National 2 contre Metz, Romain Asselin.
Et toujours 0-0. Hein. Quelques occasions à se mettre sous la dent en première mi-temps, mais des frappes qui n'ont pas trouvé le cadre pour l'instant des deux côtés. Pas de changement à la pause. C'est reparti depuis maintenant 1 minute 30 dans cette seconde période. Et Bergerac qui tente de trouver une solution dans son camp. Ouais, c'est bien joué avec un bon décalage côté gauche. On a repiqué au centre avec Elie Salt et la touche concédée par okay. Le FC Metz, 0-0 pour l'instant, après bientôt 2 minutes de jeu dans cette seconde période.
A tout à l'heure, Romain, c'est reparti également entre Lyon, la Duchère, National 2 et la S Saint-Etienne, Edouard G.
Ouais, depuis une bonne minute, rien n'a changé au tableau d'affichage. Toujours cet avantage de signé Arnaud Nordin à la 37e minute pour les Verts, avec un changement opéré par Pascal Duprat, sûrement sur blessure. Miguel Troco, qui le Péruvien, qui laisse sa place à Gabriel Silva. Donc 1 minute 30 de jeu, donc 1-0 pour l'instant pour Saint-Etienne qui se sort du piège de la Duchère.
À tout à l'heure, Edouard. Est-ce qu'il a fini de râler? Aurélien Tiercin, Poitiers National 3 contre Lens. C'est reparti aussi.
Ah, je me suis collé au chauffage pendant la mi-temps. Déjà, c'est pas mal. C'est reparti depuis une minute. Toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens. Le but de Ganago à la 37e minute. Les Poitevins à 10 contre 11 après l'expulsion de César Neto. C'était le numéro 10, le meneur de jeu. Pas de changement à la pause. Xavier Dudouis, l'entraîneur du stade Poitevin, fait confiance au même joueur. Et un premier corner obtenu par les Poitevins de la droite vers la gauche, tiré par Yvan Kibundu. Comme Yanis Simohamed, il a connu le Racing Club de Lens dans sa jeunesse. Il y a joué en 2009-2010. On a le temps, il va le tirer avec sa patte gauche. Yvan Kibundu, il y a les grands, les deux points de Wilker Farignès. Ils n'ont pas abandonné les Poitevins malgré ce but lensois, malgré le carton rouge reçu. Poitiers n'a pas baissé les armes. Attention, on contre quand même avec Seko Fofana, le capitaine.
Oh, la barre transversale, la tête de Milik et la barre transversale qui vient pour le moment sauver le Canet Rocheville. Un but partout entre Marseille et le Canet. Et c'est un corner tiré par Payet, la tête du Polonais sur la barre de François Squarcioni. Toujours un partout et 48 minutes de jeu.
A tout à l'heure, Florent Germain. On conclut avec Aurélien Tiercin, Poitiers-Lens.
Dans la frappe d'Ignatius Ganago qui n'a pas trouvé le cadre de Paul Cattier. Donc 1-0 pour le Racing Club de Lens, 48e minute de jeu.
A tout à l'heure, Aurélien. Est-ce que c'est reparti à Bauer, Saint-Ouen, pour ce match entre le Red Star et Monaco? Timothée Mémon, ça avait été sifflé assez tard la mi-temps là-bas.
Absolument, et ça va repartir dans quelques instants. Tous les acteurs sont de retour sur la pelouse et on assiste à de belles images, notamment sa blague pas mal entre Wissam Ben Yedder et Cheick Ndoye. Déjà, Cheick Ndoye était allé féliciter Wissam Ben Yedder pour son joli but tout à l'heure, et depuis ils n'ont de cesse que de se parler avec de grands sourires qui barrent leur visage. Il y a eu un changement, il me semble. Je vous donne ça dans un instant.
À tout à l'heure, Timothée. 14h50, l'intégrale foot Coupe de France sur RMC, les 32e de finale. Dans un peu plus d'une heure, à 16h, 4 autres matchs à vivre sur notre antenne. Il y en aura d'autres à 18h20 et à 21h10 pour conclure cette journée de Coupe de France sur RMC. Fény Aulnois qui recevra le Paris Saint-Germain à 21h10 sans Lionel Messi, mais avec Sergio Ramos. Il est dans le groupe, en tout cas, ce qui est déjà pas mal. 14h50, un mot de biathlon avec Julien Richard. C'est un week-end particulier, week-end de Coupe du Monde en France. Étape au Grand Bornand, il fait beau, il y a du monde, les Français brillent. Tout à l'heure, Julien Simon a pris la deuxième place de la Mastart. La Mastart masculine vient de débuter. J'ai dit quoi ?
Moi, c'est Julien, mais celle qui a fait deuxième, c'est Julia.
C'est Julia, Simon ?
Ouais.
On en est sûr ?
A priori. Okay.
Très bien. Place aux hommes, du coup, Julien Richard. C'est parti. Hein.
Oui, c'est parti. On approche même du premier tir. Il a montré à la caméra et planté les bâtons forts. Il a montré son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde avant le départ. Quentin Fillon-Maillet, il a bombé le torse. Et oui, il est leader pour la première fois du classement général de la Coupe du Monde après sa victoire sur la poursuite. Et il colle une petite attaque là à la fin de ce premier tour. Pour essayer de distancer Johannes Bö et d'arriver en tête sur le pâtir pour se placer sur la cible numéro 1 et essayer de mettre la pression sur ses adversaires. La Mastart, on le rappelle, ce sont les 30 meilleurs de la Coupe du Monde, les 30 meilleurs du moment qui partent en ligne. 4 tirs, 2 tirs couchés, puis 2 tirs debout. Et celui qui franchit la ligne en premier remporte la course.
Ça, il n'en restera qu'un.
Exactement, il n'en restera qu'un. Est-ce que ce sera un Français, Quentin Fillon-Maillet, ou Emilien Jacquelin, revanchard après avoir fait un peu n'importe quoi sur la poursuite alors qu'il pouvait prendre les commandes du classement général de la Coupe du Monde lui aussi. C'est très serré en tête et on arrive sur ce premier tir.
Allez, on le suit. Quand Fillon-Maillet est là, on le suit.
Allez, Quentin Fillon-Maillet, donc, comme je vous l'avais dit, a placé sa petite accélération pour arriver en tête et se positionner donc sur la cible numéro 1. Il a juste à côté de lui Samuelsson, le Suédois, lui aussi passé un peu à côté de sa poursuite hier. Il a également Johannes Bö qui est pas loin. Pour l'instant, le premier à avoir déclenché, c'est Bakken, le Norvégien, qui tire très vite, qui tire très juste également. Quentin Fillon-Maillet, la première balle est bonne, la deuxième également, la troisième c'est bon pour Quentin Fillon-Maillet, la quatrième, une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. La dernière est dedans, Latipov le plein, une erreur pour Samuelsson, Emilien Jacquelin la dernière, c'est bon, il va ressortir avec le peloton de tête. Johannes Bö a commis une erreur et Tarjei Bø lui a fait le plein, donc la sortie du premier tir, c'est un Norvégien qui est en tête, c'est Bakken devant Latipov le russe et devant Fabien Claude, l'un des quatre Français engagés dans cette mass start. Emilien Jacquelin est cinquième, Quentin Fillon-Maillet ressorti 20e à 21 secondes de la tête de course.
Et c'est encore long, c'est à vivre sur RMC, cette étape de Coupe du Monde au Grand Bornand. À tout à l'heure, Julien. 14h52, l'intégrale Foot Coupe de France sur RMC avec Roland Courbis et avec au Stade Vélodrome, l'OM face au Canet Rocheville, National 3. Florent Germain, est-ce que l'OM qui a eu une barre continue de pousser fort ou pas?
Oui, mais avec malgré tout prudence. 6 ouais, minutes d'accord. De jeu dans la seconde période, on sent des Marseillais qui ne sont pas totalement à 100%. On les imaginait avec une volonté peut-être de plier le match plus rapidement. En tout cas, un but partout, tu l'as dit, avec l'ouverture du score de Mike Correa à la 17e égalisation avant la mi-temps d'Arkadiusz Milik. Une faute qui a valu un deuxième carton jaune. Donc ils sont à 10, très bien regroupés devant la cage de leur gardien François Squarcioni. Ces joueurs du Canet Rocheville, et effectivement il y a eu surtout cette tête de Milik sur un corner de Payet, et globalement des Marseillais qui évidemment sont dangereux, surtout par Amin Harit qui a le ballon, qui essaye d'accélérer le ballon pour Milik. Harit à nouveau, il y a une position de hors-jeu, je pense l'arbitre ne l'a pas vu, ça joue Amin Harit côté droit, Harit avec Guendouzi et les Cantans qui sont bien regroupés et qui ont mis fin à cette action de l'ancien Nantais. Un but partout, 53 minutes de jeu au Vélodrome.
Alors coach, je sais, tu me l'as dit, tu n'y crois pas du tout pour cette équipe de National 3, mais plus le temps va passer, pas de prolongation, est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas un gros doute qui va arriver dans la tête marseillaise?
Le nouveau règlement est un petit peu inquiétant, puisque s'il y avait 2 fois 15 minutes en plus du temps normal, c'est sûr que là ça augmenterait les chances de l'OM qui joue à 11 contre 10. Mais enfin, ça fait, il reste encore une demi-heure pour marquer un but. Je pense pas que le Canet va tenir cette demi-heure.
La Ligue 1 qui doit marquer un but, c'est la mission également du FC Metz qui est au stade Gaston Simonet de Bergerac face à cette équipe de National 2, toujours 0-0. Romain Asselin,
toujours 0-0. Le FC Metz tenu en échec pour l'instant par cette équipe de Bergerin, vraiment qui fait plaisir à voir, hein, qui multiplie les assauts sur le but gardé par Marc-Aurel Caillard. Oukidja est sur le banc pour la deuxième fois consécutive après le succès du FC Metz contre Lorient 4-1 le week-end passé. Le jeu est arrêté pour l'instant, il y a un joueur de Bergerac qui reste au sol. 0-0 après 9 minutes de jeu dans cette seconde période.
On va aller à Poitiers retrouver Aurélien Tiercin. Poitiers, club de National 3 contre Lens. Est-ce que à 10 contre 11 on arrive à essayer d'être un peu dangereux pour les amateurs, Aurélien?
Malheureusement non, les Lensois ont vraiment repris le contrôle du jeu. 53 minutes de jeu, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Le but de Ganago, Ganago qui récupère le ballon, le Camondé peut dégager Corentin Jean dans la surface de réparation, de nouveau pour Ganago, la frappe, elle est contrée par Laurent Amiens. Belle défense là du Poitvin, mais on a beaucoup de mal désormais à se relancer. Tout à l'heure, 1-2 entre Ganago et Sotoka a abouti à la tête de l'attaquant Florian Sotoka. Il a voulu lober intelligemment Paul Cattier, mais le gardien de Poitvin s'est bien reculé, a fait une belle claquette et on en reste à 1-0 pour le Racing Club de Lens. C'est vrai que désormais à 10 contre 11 on a du mal à voir comment ça va pouvoir tenir jusqu'au bout. La Corentin j'ai encore une fois dans la surface de réparation. Pour l'instant Laurent Amiens notamment tire la baraque. Les Poitevins sont menés 1-0, 54 minutes de jeu.
Club de Ligue 1 qui mène également sur chez des amateurs, c'est Saint-Etienne. Les Verts de Pascal Duprat sur la pelouse de Lyon La Duchère, Edouard Gey.
Oui, grâce à Arnaud Nordin, c'était à la 37e minute dans une première période à peu près maîtrisée, pas grand chose de donné comme miette aux joueurs de la Duchère. Mais alors les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps là pour l'instant sont totalement rouges, ça veut dire totalement pour la Duchère qui donne vraiment tout, et les Stéphanois ont vraiment du mal à conserver le ballon au milieu de terrain. Brian Guabidje notamment fait un petit peu la loi avec Fadi Khatir aussi, et sur le côté gauche désormais il y a Nassim El Ghoul qui va essayer de déborder Ivan Masson, mais finalement il va obtenir une touche pour l'instant okay. Non finalement ouais, si elle va être pour la Duchère. Pour l'instant les joueurs de la Duchère sont menés, mais en cette deuxième période, début de deuxième période, ils ont tous les contres favorables, ça veut dire qu'ils en veulent un petit peu plus que les Verts, mais ce sont les Verts qui mènent 1-0.
À tour des stades, tour de nos directs, 5 matchs de Coupe de France RMC partout, 1-0 donc vous venez de l'entendre pour Saint-Etienne sur la pelouse de Lyon La Duchère. Le temps, le score à Bauer entre le Red Star et Monaco, Timothée Mémon.
1-0 en faveur de Monaco, le buteur Wissam Ben Yedder.
Marseille, Canet, Rocheville, Florent Germain au Vélodrome.
56 minutes de jeu ici à Marseille, 1-0 entre l'OM et le Canet, Rocheville. Milik a égalisé sur pénalty après l'ouverture du score de Mike Corré pour le Canet.
Bergerac, National 2 face à Metz, Romain Asselin.
La 57e minute est toujours 0-0, mais attention, ça se rapproche, quand même le danger des deux côtés, ça sent le but dans quelques minutes.
Poitiers, National 3 contre Lens, Aurélien Tiercin.
55 minutes 30 secondes, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Poitiers a reçu un carton rouge, et joue donc à 10 contre 11.
La Coupe de France continue sur RMC, c'est l'intégrale foot Coupe de France, les 32e de finale avec Roland Courbis, avec dans un instant Kevin Diaz et Benoît Boutron qui prend la suite. On n'oublie pas le biathlon au Grand Bornand, la Mastart dans quelques instants, le deuxième tir, les Français sont là en embuscade, un Français d'ailleurs est en tête. Passez une excellente après-midi sur RMC, à plus, ciao.
RMC Intégral Foot Coupe de France.